Oui, alors, je suis Carline Friquet. Donc, nous sommes dans mon bureau au Conservatoire Lannion-Trégor, dont je suis la directrice. Voilà, je suis la directrice de cet établissement depuis 3 ans et demi à peu près. J'ai un parcours de musicienne. J'ai commencé la musique toute petite à 3-4 ans. Par chance d'avoir aussi une famille musicienne. Donc c'est vrai que c'était comme une évidence en fait pour moi ou pour mes parents en tout cas. Et puis j'ai fait tout un parcours classique, des plus classiques, conservatoire et toutes ces choses-là. Je suis flûtiste. Mais il se trouve qu'au fur et à mesure de mon parcours d'étudiante de conservatoire, j'avais aiguisé un esprit critique sur cette formation. Donc, classiquement, j'aurais dû faire un diplôme d'État d'enseignement à la musique, c'est le parcours de base, et j'ai décidé de faire un pas de côté sur cet enseignement en suivant la formation du CFMI. Parce que je trouvais qu'il y avait là une question fondamentale du comment aller vers des gens qui ne sont pas comme moi, qui ne tombent pas dans la musique en naissant ou dans des familles qui sont facilitantes, mais plutôt d'aller vers ces publics-là, quoi. Donc c'est ce qui m'a amenée à faire le CFMI de Rennes. Donc j'ai été étudiante 2 ans, j'ai obtenu le DUMI. Et j'ai finalement pas fait le choix de faire ce métier. Aussi parce que je me suis portée assez vite sur l'organisationnel, la gestion. Je pense que j'avais des sortes de prédispositions pour ça. Et même à l'époque, mon directeur du CFMI me l'avait mentionné. Enfin, ça, c'est une histoire très personnelle. Ceci dit, cette formation, elle m'a beaucoup apporté, en fait. Elle m'a posé un regard complètement neuf et déconnecté du petit sérail dans lequel j'étais jusqu'alors, quoi. Donc ça, c'était un choc, quand même.
En quoi ?
Ben, le fait de... Alors, en plus, à Rennes, on était beaucoup sur des quartiers politiques de la ville ou des personnes qui sont sur... quasi une déconnexion par rapport à ma connexion personnelle que j'avais avec la musique et la musique classique depuis la naissance. Et j'ai eu envie d'attraper ce qu'ils avaient à m'apporter sur une connaissance très différente de milieux culturels divers et de leur partager une partie de mon expérience et de mes émotions, quoi. Donc ça a été fondamental, ça m'a encore plus ouvert le champ des possibles en fait. De se dire, ben voilà, moi j'ai ce bagage-là. À un moment, je commençais à me dire, ben, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que c'est bien normal de le porter toute seule? À qui je vais le transmettre et avec quels outils? Pour essayer de ne pas être dans la reconduction du modèle duquel on est issu, en fait. Et puis, ça m'a permis de découvrir aussi l'éducation nationale, le système de l'éducation d'un autre jour, pas du jour de l'élève, mais de l'organisationnel. Bon, c'était pas toujours une partie de plaisir. Parce que quand on est élève, je crois, dans une école primaire, on voit sa maîtresse ou son maître comme le tout-puissant qui peut faire ce qu'il veut. Et c'est pas vrai du tout, en fait. Donc il fait pas ce qu'il veut, en même temps c'est la garantie d'une forme de traitement équitable et puis de poursuite. Mais c'est pas simple, c'est pas simple de combiner avec tout ça. Voilà.
Qu'est-ce qui différencie la formation dont vous venez, conservatoire, que vous organisez aujourd'hui? Ça sera peut-être une autre séquence de l'entretien, parce que j'imagine que mettant votre histoire, elle est maintenant... cœur de ce que vous faites en tant que directrice du conservatoire, peut-être dans un deuxième volet. Qu'est-ce qui différencie cette formation classique, conservatoire, de la formation musicien intervenant, au fond, et qui vous a intéressé, du coup?
Alors, ce qui différencie, c'est dans une formation classique, on va avoir une approche très technique, très vite. En tout cas, dans ma génération, quand on était élève... dans le conservatoire, on abordait Typiquement, on commençait par un an ou deux de formation musicale à apprendre à lire les notes et les rythmes dans tous les sens. Et quand on arrivait au bout de la ligne, on retournait dans l'autre sens. Voilà, on était sur une technicité. Alors que dans la formation des musiciens intervenants, on a une approche qui n'est pas d'un abord technique, qui va être d'un abord plus large, culturel, plus dans la sensibilité, dans le ressenti, dans le rapport au corps et dans le rapport aux cultures plurielles. Dans ce que j'ai vécu comme élève, nous avions plus un rapport de transmission d'un patrimoine et d'une technicité. Ça a changé, mais c'était comme ça à mon époque.
Un patrimoine et un répertoire, du coup ?
Oui, un patrimoine, un répertoire. Donc le patrimoine, le répertoire de la musique savante, avec des préférences pour s'arrêter au début du XXe, parce qu'après ça commençait à devenir vraiment trop moderne. Bon, on va dire jusqu'à 1930 à peu près, quoi. Mais c'est vrai que tout ce qui était aussi création contemporaine, enfin, création tout court, on n'était pas suffisamment guidé à être nous-mêmes des créateurs, à faire un pas de côté sur les répertoires. Le sujet même de l'interprétation pouvait être délicat, hein. Et puis, il y avait toute une progression où les deux premiers cycles d'apprentissage, voilà, on avait ces patrimoines et on suivait la chronologie un peu de l'histoire de la musique pour arriver en fin de parcours à se dire « Tiens, il faudrait les ouvrir un petit peu sur la musique contemporaine. » Et là, c'était presque trop tard. Donc, l'intérêt de la formation et de la démarche des musiciens intervenants, c'est cet éclectisme, en fait. On pouvait démarrer, si on a envie de démarrer par Philippe Glass avec des maternelles, c'était possible, quoi. À partir du moment où on savait la portée, il n'y avait pas cette programmation comme ça, et c'était beaucoup plus libre.
Vous avez parlé de sensibilité. C'est important de saisir la sensibilité des élèves ou des enfants tôt.
Oui, ah bah oui, c'est essentiel parce que c'est leur outil de compréhension pour moi. Hein. Bien avant de savoir qui a écrit telle œuvre, quelle période, etc. C'est qu'est-ce que la musique provoque en eux. Donc, est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y a pas d'obligation de résultat à l'émotion. On peut écouter quelque chose qui nous laisse froid, et ce n'est pas grave. Hein. Ça tient tellement à des choses différentes, sa propre culture, sa capacité à être dans une écoute à ce moment-là et pas être pris par autre chose, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et puis, c'est pas parce que ça va pas marcher le premier coup, ça marchera pas le deuxième ou le dixième. Ça, c'est sûr qu'il faut persévérer, quoi.
L'instrument, comme outil, est peut-être, concernant l'intervention en classe, moins primordial dans sa maîtrise que la sensibilité comme outil.
Oui, ben, moi j'aurais tendance à dire ça parce que pour le coup je les encadre pas, donc si c'est le fouillis, ça me gêne moins. Là de mon poste, là comme ça, ça va. Maintenant, il y a aussi des compétences qui sont attendues. Donc quand les intervenants vont dans une classe, forcément, il y a un résultat qui est souhaité. Donc si on se dit on va faire une polyrythmie en CM2 et puis ça devrait fonctionner, et on va mettre les moyens pour y arriver quand même, quoi.
Il y a des instruments plus privilégiés pour l'intervention en classe, du coup, que d'autres?
Je dirais la voix, parce que c'est ce qu'il y a de plus intime. Et si on veut être dans une émotion, je pense que c'est le meilleur vecteur.
Elle est facile à maîtriser, la voix.
Alors sur les enfants d'âge primaire, même pour tous les enfants, elle n'est pas facile à maîtriser. Mais ce n'est pas la maîtrise qui est attendue vraiment. En fait, c'est plutôt la justesse, la sincérité du propos, quoi. Donc ils chantent aussi en groupe. Donc finalement, c'est aussi comment on accompagne cette cohorte à être dans une même direction, être à l'écoute, trouver le volume qui va bien, faire une matière sonore commune, en fait. Ça, c'est très important pour une classe, parce que bien qu'il y ait des activités scolaires de groupe, il y a toujours quand même un phénomène de je fais mon exercice dans mon coin, en fait, tout seul. C'est le même exercice, mais chacun le fait. Là, on est tous ensemble à fabriquer une matière sonore. Donc, ça peut changer. On sait aussi l'intérêt pour des élèves de se révéler différemment. On peut être en réussite scolaire et être très mauvais au chant. Et l'inverse est possible aussi, quoi. Donc, on rebat les cartes. Quand on est dans un domaine artistique comme la musique, tout est remis à plat.
C'est quoi les objectifs du musicien intervenant ou de la musicienne intervenante dans ces cas-là? C'est quoi? Où est-ce qu'il ou elle veut amener les élèves?
J'aimerais bien dire le plaisir, la découverte, hein, qui serait la curiosité, les amener à être curieux, à être capable d'écouter ce qu'ils n'auraient pas fait, à chanter alors qu'ils ne l'auraient pas fait, avoir envie de transmettre, savoir se présenter, ça c'est très important, hein, les accompagner à se présenter. Et puis, après, les objectifs de la musique, les objectifs techniques, hein, chanter juste, être en place, démarrer ensemble, terminer ensemble, appliquer des nuances, enfin, tout ça, évidemment, est important aussi. C'est la plus-value d'un technicien, d'un musicien intervenant par rapport aussi à une approche du maître ou de la maîtresse. Hein, parce qu'il peut aller plus loin, il connaît les curseurs pour les accompagner.
Justement, c'est quoi les objectifs du maître et de la maîtresse dans ce que vous en comprenez, et y compris dans la façon dont on s'est préparé en amont?
Alors, déjà, il s'agit d'un projet du maître ou de la maîtresse. Donc, ce n'est pas le projet du musicien intervenant. Donc ça, c'est primordial. Et avec ce projet, il voit qu'on peut aller plus loin avec l'intervenant en supplémentaire. Et en même temps, ça se nourrit. Parce que lors de la rencontre, l'intervenant mieux scolaire va aussi nourrir le projet. Il va partir d'une base. Il ne faut absolument pas que ce soit le projet du musée intervenant, comme une sorte d'ovni. Bah, tiens, cette année, on va faire le jazz dans toutes les classes, toutes les écoles. Ce n'est pas ça pour moi. C'est vraiment ce binôme intrinsèque qui se nourrit semaine par semaine. Donc, le maître, la maîtresse va toujours se rapporter aussi au projet de l'école, hein, c'est jamais dissocié. Ensuite, on peut l'enrichir avec le niveau d'expertise et de connaissance du musicien intervenant. Et les choses sont en mouvement permanent. C'est pour ça qu'il y a aussi besoin d'ajustements semaine par semaine. Finalement, quand le projet est écrit, c'est vraiment les premières pierres, quoi. C'est vraiment dans la relation que les choses se mettent en place.
Le projet, il est écrit par qui? Donc, c'est ce binôme qui l'écrit?
Oui, alors le projet, il est écrit par le binôme. Généralement, c'est d'abord l'école qui fait le choix, par exemple de la thématique, de la spécialité. Est-ce que ça va être plutôt quelque chose de vocal? Est-ce qu'on va avoir des activités diverses, du vocal, des percussions, de l'écoute? Est-ce que ça va être une création? Est-ce qu'on va écrire un conte? Parce que c'est important qu'il se soit relié aux matières, aux autres matières. Ça fait davantage de sens, et puis c'est l'occasion voilà, d'être dans la transversalité avec le français, avec les maths, avec différentes choses, quoi.
La collaboration avec l'enseignant, elle se situe donc en amont, on l'a vu là, peut-être en aval. Pendant la séance, quelle est la place souhaitée de l'enseignant vis-à-vis du musicien intervenant ou de la musicienne intervenante?
La place rêvée de l'enseignant, c'est d'être un acteur un peu entre le groupe d'élèves et l'intervenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans l'activité lui-même, qu'il soit partie prenante de l'activité. Comme il connaît mieux sa classe, hein, l'intervenant, il ne les a pas tous les jours pendant un an, il doit pouvoir être un relais sur... ça peut être reformuler des choses qui pourraient être mal comprises par des élèves. Ça peut être faire des liens avec les autres matières, même au sein même de l'intervention. Et c'est déjà pas mal.
Et ça, c'est la place rêvée. Quelle est la place effective? La plupart du temps, si on doit faire une moyenne, Est-ce qu'il y a ce modèle-là qui est le plus répandu ou est-ce qu'on a d'autres formes d'enseignants qui sont moins actifs ?
Ben évidemment, il y en a qui sont moins actifs parce qu'ils ne sont pas tous à l'aise, même avec leur propre voix, et parfois ils se mettent un peu en réserve. Donc, ce n'est pas la situation idéale pour une coopération, ça c'est sûr.
C'est à qui de prendre en charge ça dans ces cas-là ?
Dans ces cas-là, on essaie de trouver d'autres places, d'autres façons de faire. Ça s'assurer aussi qu'il y ait bien des reprises semaine par semaine, parce que l'intervenant, il vient une fois par semaine. Donc, il faut aussi une coopération dans la semaine pour que les choses prennent corps. Par exemple, si c'est une chanson, la reprendre, la réécouter. Donc, il y a tout un contenu pédagogique qui est également fourni. Hein. En fait, l'intervenant... Le musicien intervenant va donner voilà, la chanson avec son accompagnement, le playback, il y a moyen de travailler. Et puis il y a quand même des choses que le maître ou la maîtresse peut faire, c'est au niveau de l'apprentissage des paroles, de l'explication du vocabulaire, des tournures. Et là, il a toute matière à travailler ça en français ou dans l'écriture, il y a beaucoup de choses à faire. Quoi.
Vous êtes aujourd'hui directrice du conservatoire Comment ? Alors, et vous avez en charge la coordination des dumistes ?
Non, je n'ai pas en charge la coordination des dumistes. Donc, c'est ma collègue Sylvie Normandin que vous allez voir tout à l'heure. Et effectivement, je suis la directrice du conservatoire Lannion-Trégor. Donc, ce conservatoire, c'est 750 élèves, 4 sites d'enseignement, dont le principal est à Lannion. Uniquement en musique, donc c'est une spécificité parce que beaucoup de conservatoires ont plusieurs disciplines, musique et danse, musique et théâtre. Donc là, nous, pour l'instant, en tout cas, nous n'avons que la musique. Et donc, c'est un choix de métier que j'ai fait très vite après ma formation du CFMI. Peut-être une folie quelque part, hein, je me suis jamais... Il y a des jours où je me dis que c'était une folie. C'est une charge très, très importante de travail. Qui c'est à la croisée entre la possibilité de tout faire et la réalité. Voilà. Donc, c'est être initiatrice de projets artistiques, de projets pédagogiques, et en même temps, d'avoir la charge d'être dans les cadres institutionnels. Le conservatoire, c'est beaucoup de cadres. Donc, il faut répondre à des cahiers des charges précis. Donc, il faut être suffisamment et bien accompagné par une équipe aussi. Donc, il faut être à l'initiative, bien accompagné, dans une dynamique pour pouvoir faire des choses dans le cadre et dans une pertinence. Quoi.
C'est pas commun d'avoir une directrice de conservatoire qui a fait le CFMI ?
Ben, c'est pas très commun, mais ça commence à arriver. Donc, je ne suis pas la seule. Dans les Côtes d'Armor, on a aussi le directeur du conservatoire de Lamballe-Terre-et-Mer qui a fait le CFMI. On est à une promo d'écart, comme quoi on doit être la nouvelle génération des directeurs. Et ça, oui, ça commence à arriver. Bon, il y a aussi une démographie de directeurs de conservatoire qui est plutôt à la baisse. Je ne sais pas, il y a de moins en moins de candidats pour ces postes-là, peut-être.
Ça change quoi pour vous ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Directrice du conservatoire.
D'avoir fait le CFMI mmh. Ben justement, d'avoir su à un moment faire un pas de côté. Je pense que si j'étais passée de mon sérail de conservatoire à directement directrice de conservatoire sans être passée par le CFMI, je ne me poserais pas exactement les mêmes questions. Là, je vais être plus attentive à des situations d'ouverture, d'éducation, de sensibilité, d'émotion. Je pense que ça m'a vraiment apporté ça.
Ça, c'est une qualité essentielle pour un pédagogue, pour un enseignant.
Oui, ouais. Oui, c'est une qualité d'enseignant. On ne peut pas juste enseigner une technique, quoi. Parce que là, je pense qu'on passe carrément à côté de notre rôle. La technique, oui, mais pas comme vecteur essentiel.
Comment fonctionne l'articulation entre la coordinatrice des dumistes et vous-même ?
Alors, d'abord, on se voit régulièrement. Donc, moi, on discute, on échange. Elle me fait un retour, beaucoup retour de terrain. On regarde les situations qui peuvent être des points de vigilance. Et puis, on va sur l'idée de faire on dégage des grandes orientations ensemble. Bon, c'est plutôt moi qui dégage les grandes orientations en général. Mais elle est à l'écoute, elle peut être force de proposition. Et puis, voilà, on regarde ensemble les dossiers qui remontent, les attentes. On est vraiment un binôme de travail, quoi.
Les attentes et les dossiers, donc c'est sur la base de ce qui est écrit comme projet par les établissements, ce qui est construit par les musiciens intervenants et les enseignants. Il y a quoi en ce moment, là? Quels sont les projets qui sont en cours? Est-ce que vous avez des choses, là, raconter un petit peu autour des projets qui travaillent. Alors, il y en a beaucoup, vous avez cité tout à l'heure la diversité des établissements et des actions, mais est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous parlent là, tout de suite?
Alors là, en effet, on a un projet qui rayonne sur plusieurs écoles autour d'un conte musical qui s'appelle Une fleur m'a dit. Donc ça, c'est un projet qui nous amène à intervenir de manière supplémentaire avec des musiciens. Donc un projet vocal qui a été travaillé avec l'intervenante. Et nous avons un apport de 3 professeurs, donc clarinette, piano, il n'y en a que 2 maintenant, clarinette et piano, qui vont accompagner les élèves. Donc là, ils rentrent dans un univers un peu supplémentaire. Ils voient les instruments, ils voient les musiciens. Il y a une approche, un peu une découverte, aussi des sonorités, de voir qu'est-ce que c'est que de travailler un peu avec un ensemble de musique de chambre. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas à chaque fois sur les projets, quoi. On a aussi eu un projet qui... On a eu pas mal de projets qui ont amené à des captations sonores. Alors un peu l'effet Covid, hein, parce qu'on a dû se rabattre simplement là-dessus pour pallier à l'absence de spectacle, puisque traditionnellement, ce qui est attendu, c'est le concert, où il y a tous les parents, etc. Voilà. Mais moi, je trouve ça pertinent, en fait, de varier les supports. On n'est pas toujours le concert. Là, c'est autre chose. Aller dans un studio ou faire venir un ingénieur du son, ça apporte une nouvelle lecture de ce qu'on peut faire de la musique. Et puis surtout, on peut se réécouter et puis travailler là-dessus. Et aller un petit peu plus loin. Parce que quand c'est dans l'immédiateté, bon, on attend, quand on écoute un live, c'est pas la même chose que quand on écoute un album de studio, quoi. Et ça amène à aiguiser encore un peu plus l'oreille des élèves, des enfants de la classe. Et c'est assez intéressant.
Ça passe par une découverte des métiers, notamment?
Oui, alors malheureusement pas suffisamment par rapport à ce qu'on pourrait faire. Faute de temps, peut-être un peu de moyens aussi. Mais ça peut passer par ça, ouais.
Merci, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, en gros, sur le SAFM? Je vous demande de construire un petit peu avec moi mon questionnaire. Qu'est-ce qui vous serait utile pour vous, là, aujourd'hui?
Qu'est-ce que j'aimerais savoir aujourd'hui sur le SAFMI? Eh bien, dans ma position de directrice de conservatoire, je pense que ça pourrait être intéressant d'être plus en lien avec les programmes et les attentes, les objectifs de formation du CFMI. Parce que moi, je suis l'échelon d'après, je suis un recruteur, je vais trouver des personnes en qui porter confiance pour porter un projet culturel de territoire. Et aujourd'hui, j'ai peu de références de ce qui est vraiment enseigné et de la manière dont ça se passe. Donc là, j'ai eu une toute jeune diplômée il y a quelques années. Et je trouve que peut-être la marche, alors est-ce que ça vient d'elle, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que la marche entre l'objet de formation et la réalité de terrain, elle serait peut-être à réduire un petit peu, quoi. Donc les conditions de travail, comment ça fonctionne vraiment. Je comprends qu'il soit sur des objectifs... Il y a beaucoup de choses sur les répertoires, l'analyse des choses techniques de la musique et peut-être renforcer un peu la multicarte du musicien intervenant. Parce que les musiciens intervenants, ils sont souvent polyvalents. Ils peuvent aussi faire de l'éveil. Alors, je sais qu'il y a des choses qui se sont développées sur la petite enfance au niveau des CFMI. Il y a aussi un DUMI orienté musique et handicap. Il faudrait peut-être aller davantage là-dessus en consultant ou en essayant d'avoir plus de références sur ce qui se passe dans le après, quoi.
Le après, c'est...
Quand on travaille, quand on est dans un conservatoire ou une structure. Et puis le musicien intervenant, alors c'est pas le cas ici, mais malheureusement, il est souvent isolé. On peut en avoir un et demi. Ils ont des territoires, chacun le sien. Et faire le lien avec une structure, ce qu'idéalement, quand on dépend d'une structure, c'est tellement mieux, parce qu'on peut aussi avoir... un travail avec des collègues, comme je le citais tout à l'heure, dire ben moi j'ai un compte musical et puis il y a une écriture pour clarinette, on fait appel aux collègues, c'est l'occasion de mettre un pied du conservatoire dans l'école. Ça, c'est très très bien aussi. Donc je pense que plus axé, enfin, peut-être cette ouverture sur qu'est-ce qu'on fait avec un conservatoire, qu'est-ce qu'on fait avec une école de musique, qu'est-ce qu'on fait avec une salle de spectacle. Est-ce que ça, c'est moins mon domaine direct, mais quand on a une salle de spectacle sur son territoire, pour moi, le dumiste, il doit être aussi un médiateur, une passerelle, un ambassadeur de tout. Il est un ambassadeur de la culture.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.